pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Pour une fois à Reims, aujourd'hui, il y avait un événement politique, hein, puisqu'on pouvait voir entre midi et 2 heures plus d'une centaine de personnes déambuler, hein, et demandant la libération d'Hodge Allen. Alors justement, ce soir, on fait notre émission là-dessus, sur la liberté pour Hodge Allen, et aussi la recherche de solutions politiques à la question kurde. On reçoit un certain nombre de personnes qui étaient à la marche tout à l'heure. On reçoit, ton prénom, je ne me rappelle plus.
Erivan Firat.
Voilà, tu fais partie du CDK.
Je suis la porte-parole, la co-porte-parole du Conseil démocratique kurde en France.
Voilà.
Et tu nous fais le plaisir d'être avec nous ce soir pour nous parler donc de cette initiative, de cette marche européenne qui a commencé il y a maintenant...
On était le 22e jour aujourd'hui.
22e jour aujourd'hui, mm-hmm. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter d'ailleurs effectivement cette marche, en quoi elle consiste, comment elle s'organise et quel est son parcours et son objectif?
Eh bien, c'est une marche qui va durer 25 jours. Qui est en particulier, tous les jours, c'est 25 marcheurs. Après, d'autres manifestants viennent les rejoindre. Mais tous les jours, c'est 25 personnes. Et qui va marquer des arrêts sur 25 lieux différents. Pourquoi 25 jours? Pourquoi 25 lieux? Pourquoi 25 marcheurs? Eh bien, justement, pour faire référence aux 25 années de détention illégale sur Öcalan. Qui dit détention sur le leader politique du peuple kurde dit un impasse pour la résolution de la question kurde. Donc cette initiative, liberté pour Öcalan, un statut pour le peuple kurde, le Kurdistan, est une campagne internationale qui a débuté en réalité le 7 octobre, qui a été initiée par les Amis des Kurdes, et que par la suite, les Kurdes ont repris, et donc initié partout, dans toutes les villes européennes, le 7 octobre, 74 villes, endroits dans le monde, ont commencé à la même heure une conférence, une déclaration de presse, et bien justement, concernant la situation de détention d'Abdullah Öcalan et surtout son impact sur la non-résolution de la question kurde. Et donc, c'est dans ce cadre-là que cette longue marche que nous avons voulu traverser dans diverses villes assez symboliques de la France. Pour nous, Reims est une petite ville, mais c'est une ville où il y a eu quand même précédemment une armistice qui a été signée. C'est une ville qui est historiquement une ville qui a vu beaucoup de conflits, de changements, de caps et tout ça. Donc c'était important pour nous de marquer un arrêt ici et de dire, eh bien, liberté pour Öcalan, solution politique pour le peuple kurde. Et cette marche va aller jusqu'à Strasbourg, ce 15 février, date à laquelle Abdullah Öcalan a été incarcéré sur cette île prison, qui est l'île d'Imralı. Depuis 1999, 15 février 1999.
C'est ça, alors c'est les deux thématiques qui sont effectivement, comme tu l'as dit, étroitement liées, c'est-à-dire mettre en lumière absolument l'incarcération, les conditions de détention de cet homme politique emblématique du peuple kurde. Un quart de siècle, hein, quand même, quart de siècle qu'il est détenu dans des conditions extrêmement particulières sur lesquelles tu vas revenir. Et en même temps, souligner que le mouvement kurde apporte des propositions sur la table pour une résolution. Alors, c'est pas un problème en fait, c'est une question politique et c'est une question nationale, puisque souvent on oublie et on le répète aussi souvent, dans la construction du Moyen-Orient et de ce que l'on appelle assez mal le Proche-Orient, sous le joug évidemment des puissances impérialistes de l'époque, c'est-à-dire l'Angleterre et la France, il y a deux peuples qui ont été lésés, la Palestine, les Palestiniens, et les peuples kurdes. Alors, on ne rentrera pas dans le détail du traité de Sèvres et tout ça, puisqu'on n'aura malheureusement pas le temps, mais d'abord, parlons de cet homme, Öcalan, et de son arrestation, des conditions de son arrestation et des conditions de son sa détention sur un complexe, une île prison, en fait, qui est, on va dire, uniquement créée pour lui, et des conditions de détention extrêmement dures et qui se sont malheureusement détériorées ces trois dernières années. Et s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir là-dessus ?
Bien sûr. Déjà, Öcalan est la réponse à la question kurde. On parle d'une question kurde, mais nous avons la réponse aussi. Nous avons un projet politique qui a été rédigé, élaboré, développé par Öcalan, qui est une solution pour la Mésopotamie. Pas seulement, on dit Moyen-Orient, mais la Mésopotamie, qui est les territoires des Kurdes, mais qui est aussi le berceau de l'humanité. On oublie de le dire. C'est de là-bas que s'est levée la lumière. Et aujourd'hui, c'est là-bas qu'on veut instaurer l'obscurité. Donc, de ce fait, Abdullah Öcalan, qui a, avec ses camarades, tiré des leçons de l'histoire, a mis en place un projet politique. Un projet politique qui est une alternative à l'État-nation, qui est un projet politique de vivre ensemble. Donc, ce projet politique dérangeait. Il dérangeait pas seulement les Turcs. Il dérangeait pas seulement la Syrie, pas seulement l'Irak, pas seulement l'Iran. Pourquoi je parle de ces quatre pays ? Parce que ce sont les quatre pays entre lesquels notre territoire a été divisé, a été martelé, au détriment de l'unité familiale même, territoriale, physique des Kurdes. C'est-à-dire, c'est pas les Kurdes qui sont venus s'installer dans les territoires de ces pays. Ce sont ces pays qui sont venus tracer leurs frontières sur nos terres. Donc, le projet politique qui était développé par Öcalan et qui commençait à avoir beaucoup de résonance au Moyen-Orient et même aussi dans le monde, dérangeait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre d'un complot qu'on appelle un complot international, puisque c'est le cas, parce qu'il n'y a pas... Il y a les États-Unis, il y a Israël et il y a d'autres pays qui ont mené un complot contre le peuple kurde. En la personne de Öcalan, c'est le peuple kurde qu'on a enfermé sur l'île prison d'Imralı. C'est la volonté, la détermination du peuple kurde qui est emprisonné sur l'île d'Imralı. Parce qu'il ne faut pas qu'on se dise Öcalan est pour nous l'architecte d'un projet politique qui peut amener la paix au Moyen-Orient. Ce Moyen-Orient qui a été le chemin des traversées des peuples, qui a été le chemin des commerces, qui a été le chemin de développement spirituel des peuples, est devenu aujourd'hui un bain de sang, un lieu où les peuples s'entretuent. Pourquoi ? Pour servir les intérêts des capitalistes. Et donc, le peuple kurde, en l'occurrence Öcalan, a révisé tout cela. Et cela a dérangé. Voilà pourquoi Öcalan a été fait prisonnier dans le cadre d'un complot international. Il a été livré à la Turquie avec une promesse que la Turquie a faite d'abroger la peine de mort pour pas qu'il soit, exécuté. Et suite à un procès, vraiment un simulacre de procès, puisque aucune normes internationales n'ont été respectées, ses droits, le droit de la défense n'a pas été respecté. C'est vraiment un simulacre, une pièce de théâtre.
C'est un tribunal militaire ?
Soi-disant civil, soi-disant civil, mais bon, oui, bon, les juges, tout ça, venaient tous des tribunaux militaires, des tribunaux de sûreté de l'État. Donc, cela signifie bien, sauf on a changé, la qualification qui allait derrière le nom, mais c'était les mêmes, c'était ceux qui ont jugé, qui ont condamné des Kurdes, des progressistes, des démocrates, des socialistes, des communistes, à des peines de prison pour avoir osé penser tout haut, ou pour avoir osé dire il y a une injustice, il y a une négation sur la question kurde, ou pour avoir osé dire il y a eu un génocide sur nos terres, le génocide des peuples arméniens. Ces gens-là ont été emprisonnés par les mêmes qui, par la suite, en changeant de qualification, ont jugé et condamné Öcalan à la prison à perpétuité alourdie. Ce qui veut dire que jusqu'à la mort, il ne sort pas. Donc, c'est une sorte de condamnation à la mort. Sauf que ils ont promis, la Turquie a promis de respecter certains critères des accords internationaux. Mais aucun n'a été respecté. Plusieurs fois, il a été placé sous isolement carcéral. C'est-à-dire, ni le droit de rencontrer ses avocats, ni le droit de rencontrer sa famille, et en plus, en tant que prisonnier unique sur une île. C'est inhumain. On ne peut pas condamner une personne à l'isolement. C'est, on a eu l'ancien adjoint au barreau de Paris, le bâtonnier adjoint au barreau de Paris, qui a dit qu'ils avaient, suite à des recherches analyses qui avaient été faites, une personne détenue en isolement carcéral pendant 15 jours pouvait perdre la raison. Öcalan est détenu depuis 25 ans, et là, ça fait 3 ans qu'il est en isolement carcéral total. À la limite, nous ne savons même pas s'il est vivant ou mort.
Je crois que le dernier contact avec son frère, c'est de novembre, c'est ça, contact téléphonique, donc ça donne la mesure de ce que ces geôliers sont capables d'imposer ou de vouloir. Cette situation, juridiquement, elle a été portée, elle a été dénoncée. Est-ce qu'il y a eu des réactions de la communauté internationale ou on se croise les bras ?
La communauté internationale a reçu des milliers de classeurs de dossiers. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de le lire. Hein, ils sont occupés. Et aucune norme. Plusieurs fois, il y a eu des soi-disant rappels à la Turquie en disant de respecter
les accords internationaux.
Oui, les accords internationaux. Mais bon, voilà. Il n'y a pas de comment je veux dire, il n'y a rien qui est imposé. Alors que ces accords, lorsque, par exemple, la Cour européenne demande l'application d'un article, il y a des contraintes si ce n'est pas fait. La Turquie, il n'y a aucune contrainte qui est appliquée. On lui dit, vous devriez, mais non. Puisque depuis plus de 20 ans, la Turquie, qui a été loin d'être une démocratie, qui a été dirigée pendant longtemps par les militaires, et qui est depuis 20 ans dirigée par Erdogan et ses pairs, est une véritable prison à ciel semi-ouverte. Pour le peuple, pour les Kurdes en particulier, mais pour ceux qui ont la capacité ou l'audace de vouloir penser, de vouloir avoir une idée un peu vagabonde, une idée qui voyage un peu. La moindre haussement de ton contre le système en place, le moindre action proteste peut conduire un individu en étant accusé de propagande d'une organisation terroriste et séparatiste ou d'aide et de soutien. Vous savez, les pages des procès-verbaux sont automatiquement remplies. Il suffit de mettre les noms et les dates de naissance et ça peut les envoyer en prison pendant des très très longues années. Il y a par exemple actuellement, je me permets de terminer, centaines de prisonniers qui sont arrivés, qui ont purgé les 30 années de détention qui leur avaient été infligées, et certains ne sont pas libérés. On leur dit soit ils ont commis des infractions de discipline, hein, ou on attend, ils sont malades, on attend qu'ils meurent avant de les relâcher. Donc, cette Turquie a tout fait pour que la question kurde soit l'oublier de nouveau de l'histoire, comme tu as pu le dire lors de la traité de Lausanne. Mais cette fois-ci, le peuple kurde s'est mis en marche. Et il y a un proverbe chez nous, les Kurdes, qui est un proverbe extrêmement significatif, qui dit que lorsque un peuple s'est mis en marche pour sa liberté, vous pouvez dresser les montagnes devant, rien ne tiendra. Et c'est le cas pour le peuple kurde.
Et alors, justement, au niveau du contenu maintenant, on parle du confédéralisme démocratique. Est-ce que tu peux nous en donner un petit peu les contours? Parce que c'est le projet politique du PKK, du PKK, pardon, et de Öcalan en particulier.
Effectivement, le confédéralisme démocratique, déjà, c'est un projet, une recette de savoir vivre ensemble en effaçant les distances qui nous séparent pour pouvoir mieux se connaître et pour pouvoir continuer à vivre ensemble. Par exemple, vous avez cette expérience qui a été mise en place dans le nord et l'est de la Syrie, où les Kurdes ont combattu contre les vermines obscurantistes. Et ce projet politique est un projet qui est non seulement un projet multiethnique, qui est multiculturel, qui est paritaire, qui est féministe, qui est écologique, et qui a pour objectif de vivre ensemble sans qui est un peuple qui domine un autre peuple. Je vous donne un exemple. Il y a des assemblées populaires qui sont mises en place. Déjà, c'est une la gestion politique est un triangle à l'envers. Actuellement, nous sommes dirigés par un triangle. Il y a quelqu'un en haut qui nous donne des ordres. Après, il y a d'autres bonhommes, bugus, enfin, on peut dire ce qu'on veut. Et ça descend jusqu'à nous et on nous impose. On doit faire ceci de cette façon-là. Alors que là-bas, il y a des assemblées de rue, il y a des assemblées de quartier, il y a des assemblées de village, il y a des assemblées de ville, de canton et tout ça. Et toutes ces assemblées décident de leurs besoins, décident de leurs attentes, décident de ce que va devenir leur rue, ce que va devenir, par exemple, une église ou un mosquée ou, qui devrait être refaite. C'est eux qui vont décider. Ce n'est pas, par exemple, imaginons que ce soit au Kurdistan du Sud, eh bien, ce n'est pas Erbil qui va décider de ce qui va se passer dans un petit quartier. Ce sont les habitants qui connaissent le mieux. Donc, ce projet politique est un projet qui est au plus près des peuples. C'est une démocratie directe et une démocratie qui permet à tous les acteurs de la société de pouvoir s'exprimer, de pouvoir décider, de pouvoir contester, de pouvoir profiter aussi des richesses locaux. Parce qu'actuellement, toutes les richesses qui sont tirées de nos terres sont envoyées dans les grandes villes, hein, dans les grandes villes qui sont ou des citernes ou des camions ou d'autres appareils, des capitalistes attendent pour les avaler, et après ne sont revendus à des prix exorbitants, alors que ce sont des richesses, alors que ce sont des minerais, alors que ce sont de l'eau qui sort de nos terres, qui sort à côté de notre porte. Donc c'est aussi un projet politique qui amène tous les habitants des lieux à profiter à part égale des richesses qui sont des richesses locales, et de pouvoir de cette façon décider et de pouvoir gérer une vie ensemble dans les écoles, pour encore mieux comprendre, parce que c'est, quand on regarde comme ça, c'est un peu compliqué. Déjà, ce projet de confédération démocratique est une alternative à l'État-nation. L'État-nation qui impose une seule langue, une seule culture, un seul drapeau, si nécessaire, une seule religion. Hein. On nous parle de nos racines chrétiennes, judéo-chrétiennes, de tout ça. Alors que là, nous disons, eh bien, chaque individu a le droit de s'exprimer, de pouvoir vivre dans l'idée, le projet, la pensée auquel il croit, sans qu'un autre ne le domine. À l'école, pour que ce soit très simple, par exemple, un enfant kurde va apprendre d'abord à l'école le kurde. Un enfant syriaque, dans la même école, va d'abord apprendre le syriaque. Un enfant arménien ou arabe, il va d'abord apprendre soit l'arménien, soit l'arabe. Et une fois arrivés au niveau collège, ils vont apprendre la langue des autres pour d'abord apprendre leur langue maternelle, après apprendre la langue de l'autre, après découvrir les cultures de l'autre pour pouvoir être encore plus proche et pouvoir vivre ensemble en découvrant toutes les choses qui nous unissent et toutes les choses qui nous désunissent. Et de cette façon, plus on efface les distances qui nous séparent, plus on peut vivre ensemble avec le respect de l'autre. C'est un projet qui est de cette façon qui est mis en place justement dans la région du Rojava, dans le nord et l'est de la Syrie. Et c'est un projet politique qui dérange, puisque les États-nations vivent, s'enrichissent sur la guerre des peuples des uns contre les autres, en vendant les armes, en utilisant tous les conflits, les intérêts qui peuvent en ressortir. Donc ça dérange. Voilà pourquoi il n'y a aucun effort n'est fait pour que Öcalan puisse sortir de prison, car c'est un des interlocuteurs le plus important pour une solution kurde et pour amener la paix au Moyen-Orient. On parle de nouveau du berceau de l'humanité, qui est toute la Mésopotamie, qui est aujourd'hui à sang, en feu et au sang, à cause des intérêts de certains capitalistes, de certains individus qui, au détriment des intérêts des peuples, eh bien, attisent la haine, la guerre et utilisent toutes les richesses de la région en affamant ceux qui sont réellement propriétaires de ces biens et qui sont, eux, prêts à partager avec les autres.
Alors, je crois que c'est ça qui est fondamental de rappeler, c'est que si les organisations de défense et les organisations politiques des Kurdes, comme le PKK, sont nées dans un certain contexte, dans les années 70, contexte de délocalisation, de décolonisation, pardon, où effectivement l'État-nation, la lutte de libération nationale, elle était marquée culturellement et politiquement par des repères, ce projet n'est pas été fossilisé, mais au contraire s'est enrichi, a pu évoluer, et au contraire, la révolution idéologique qui pourrait y avoir et qui nous intéresse, nous particulièrement à l'Égrégore, mais pas que nous, c'est effectivement ce concept d'État-nation disant même cet ensemble géographique de la Mésopotamie est multiple. Il y a des Alévis, il y a des Assyro-Chaldéaques, etc., etc. Et au contraire, on peut tous vivre ensemble mieux, en relation en plus avec le territoire. Et par contre, ça signifie que il y a une implication directe des gens au quotidien, dans leur vie et dans leur travail, et que tout ça, c'est aussi quelque chose qui s'élabore ensemble et on continue. Et là, c'est magnifique parce qu'on n'a plus besoin justement de ces grandes puissances qui viennent nous dire comment faut vivre et comment faut faire. Quelles si on mesure ce que ça peut envoyer comme signal aux gens, pardon pour le vocabulaire, qui se foutent sur la gueule depuis des décennies, mmh. alors que finalement, il y a des hypothèses, en tous les cas, de travail qui pourraient être mis. Et nous, on l'a bien vu ici, parce que quand il y a eu cette lutte au Rojava, il y a des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de volontaires internationaux qui se sont rendus sur place, d'abord, comme tu l'as dit, pour défendre le peuple kurde contre la barbarie et les agressions de l'État turc, mais aussi pour découvrir un projet de société dans lequel ils ont pu effectivement voir que la traduction concrète de cette
ils ont théorisation pu voir que politique. Ce n'était pas simplement une utopie.
Non.
Que ce n'était pas simplement un projet joli à lire sur une page. Parce qu'il y a beaucoup de projets, de choses qu'on écrit, qu'on met sur les livres. Et une fois on arrive sur le terrain, il n'y a rien. Et beaucoup ont voulu voir, vraiment. Ce projet paraît vraiment comme une chanson qui vous chante dans l'oreille. Pouvoir vivre ensemble, une société féministe, paritaire, écologique, avec le respect des autres, de nos voisins, des gens qui sont... C'est magnifique. Et c'est pour ça, comme vous avez pu le dire, il y a eu des milliers de personnes. Certains sont partis combattre aux côtés des Kurdes, mais beaucoup sont partis pour voir vraiment si ce projet politique était réellement mis en place. Et ils ont pu voir. Ils sont venus témoigner. Ils sont venus témoigner de façon encore plus enthousiaste que moi je peux vous le raconter. Parce que nous avons vécu un petit peu l'évolution, le développement de ce projet. Par exemple, vous avez très bien dit, eh bien, le PKK a été créé à une période où c'était la fin des années 70, les luttes de libération nationale, un peu le projet politique, État-nation et tout ça qui était plus... Mais le PKK n'est pas une organisation figée. C'est une organisation qui, avec son temps, avance, qui peut changer sa vision par rapport au monde qui change. Par rapport, en tirant des leçons, tout à l'heure, j'ai dit, de notre passé. Par exemple, nous avons vu, à l'époque, en tirant des leçons du génocide arménien, du génocide des Assyro-Chaldéens, des multiples massacres du peuple kurde, des génocides sur le peuple kurde, parce que on les appelle pas des génocides, mais il y a eu des tas de massacres qui ont été commis parce que kurdes, parce que alévis, parce que à cause de leur gène, à cause de leur origine, donc ce sont des génocides, mais que on ne veut pas nommer comme ça, mais malgré cela, eh bien, le peuple kurde est debout et nous avons dit encore aujourd'hui que ce projet politique que nous avons mis ensemble, nous voulons l'offrir à l'Arménien qui a été massacré, nous voulons l'offrir aux Juifs qui a été victime d'Holocauste, nous voulons l'offrir aux Palestiniens qui est sans terre, nous voulons le partager même avec le Tamoul qui est de l'autre côté au Sri Lanka qui est victime d'un génocide et qui est à 90 millions de personnes sans statut. Nous voulons vivre ensemble car il n'y a que comme ça que nous pouvons réussir et si nous vivons ensemble, si nous sommes propriétaires de notre maison comme nous sommes propriétaires des richesses qui sortent à côté de notre porte, par exemple de l'eau, la Mésopotamie regorge d'eau. Actuellement, la Turquie et d'autres États barbares, eh bien, profitent l'eau, jouent la guerre de l'eau. Coupe l'eau sur la population en jouant vraiment à la guerre de l'eau, ce qui est un crime contre l'humanité. Mais encore une fois, les instances internationales n'ont pas un mot à dire. Alors que couper l'eau, ça empêche les gens d'irriguer leurs terres, ça empêche les centrales électriques de fonctionner, donc d'avoir de l'électricité. Ça empêche les hôpitaux de pouvoir travailler puisqu'il n'y a plus d'électricité. Ça empêche l'homme de boire, ça empêche l'hygiène, ça empêche si... C'est un crime grave. Mais pourquoi on se tait? Pourquoi est-ce qu'on se tait? Parce que ces États capitalistes ont leur intérêt à tirer avec la Turquie, qui est un de leurs alliés soi-disant stratégiques, et laissent les peuples, pas seulement le peuple kurde, les peuples sur place, si nécessaire, mourir de maladies, de manque de soins, de manque d'hôpitaux. Dernièrement, dès le 4 octobre 2023, la Turquie a frappé 512 lieux stratégiques civils. Les hôpitaux, les écoles, les dispensaires, les réserves d'eau, les réserves d'électricité, les silos de blé, d'orge. Silence radio. Je parle du 4 octobre, il y a trois jours avant ce qui s'est passé, la barbarie qui s'est passée.
Oui, c'est tous les jours qu'il y a des arrestations arbitraires, tous les jours que faut-il le rappeler, même lorsqu'il y a des représentations politiques légales. Voilà, le vice-président du HDP qui est incarcéré depuis 5
2016.
Ans. Ouais, 8 ans maintenant, 8 ans. Ça passe. Donc voilà, on fait ce qu'on veut, quoi, et on se tait. Je te propose de faire une pause pour qu'on reprenne notre souffle, et puis ensuite, on continuera sur cette thématique.
Oh,
un mot sur la musique pour illustrer encore une fois la répression de l'État turc contre le peuple kurde et le mouvement kurde, puisque la chanteuse de ce groupe, dont je m'excuse pour la prononciation,
Sorkhuin
Nudem, est incarcérée.
Pour avoir chanté en kurde, elle a été condamnée à 19 ans d'emprisonnement. Il y a une campagne internationale qui est menée pour sa libération et pour la libération des prisonniers politiques. Et malgré
elle
cela...
Elle avait une vingtaine d'années quand elle a été arrêtée et condamnée.
Oui, tout à fait.
Voilà ce que l'État fait à sa jeunesse, quoi.
Ben, l'État emprisonne, l'État détruit tout ce qui a un rapport avec le kurde. Et actuellement, il y a aussi une grève de la faim dans les prisons, une grève de la faim tournante. Cela fait 78 jours, mais les grévistes ont prévenu qu'au-delà du 15 février, s'il n'y a pas de nouvelles de Abdullah Öcalan, qui est, je rappelle, en isolement carcéral depuis plus de 3 ans, eh bien, ces grèves deviendraient des grèves de la faim qui pourraient aller jusqu'au jeûne de la mort. Donc il y a une situation qui est extrêmement tendue dans les prisons. Il y a en même temps, depuis le 1er février, une marche pour la liberté de Öcalan, statut pour le Kurdistan, au Kurdistan.
D'accord.
Dont 3 députés sont les initiateurs et qui marchent à travers le territoire du Kurdistan et qui sont accueillis par des milliers de Kurdes et qui, comme ici... Eh bien, défie de nouveau l'État turc pour dire, eh bien, nous marchons et nous continuerons à marcher pour la liberté de Öcalan, pour la liberté de tous les prisonniers politiques, car en isolant Abdullah Öcalan, c'est tous les autres prisonniers politiques qui sont privés de leurs droits. Donc, pour revenir à cette campagne, l'importance de cette campagne, je voulais aussi rendre un hommage. Hier, c'était le 11 février. Et le 11 février 1990, était libéré Nelson Mandela. Nelson Mandela, qui avait passé 27 ans en prison, dont Nelson Mandela lui-même, mais aussi son organisation, l'ANC, était fiché terroriste comme les Öcalan et le PKK.
Je peux même aller plus loin, il était chef de la branche armée et militaire de l'ANC, l'UWE, donc voilà.
Tout à fait. Et quand il a été libéré, par la suite, nous savons que Nelson Mandela est devenu le président de la République de l'Afrique du Sud. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Nelson Mandela qui est d'un coup devenu un homme parfait? Ou ce sont les intérêts de réels politiques qui ont changé? Ce sont les intérêts de réels politiques qui ont changé. La vision du monde a changé. Et ils se sont rendus d'un seul coup compte qu'il fallait lutter contre l'apartheid. C'était un droit fondamental. Mais à l'époque, on l'a criminalisé. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec le peuple kurde. On criminalise le peuple kurde qui a lancé une lutte armée, certes, mais qui n'avait pas d'autre moyen de se défendre. Car, comme tu as pu le dire, tous les acteurs de la lutte démocratique, même avant Selahattin Demirtas, le coprésident du HDP, avaient fini en prison, avaient fini dans les geôles turcs, avaient fini sous la torture. Donc, il n'y avait pas d'autre alternative que de devoir prendre les armes. La Convention internationale des droits de l'homme dit que chaque individu a le droit d'assurer son autodéfense par tous les moyens en sa possession, y compris les armes, si d'autres moyens ne sont plus à sa disposition. Il en est de même pour le peuple, pour les peuples et pour le peuple kurde. Donc c'est ce droit fondamental, ce droit de défendre son peuple, ce droit d'autodéfense, de défendre sa vie, que le peuple kurde a utilisé et qu'on a criminalisé. C'est pour cela que Abdullah Öcalan doit être d'abord, l'isolement carcéral doit être levé, il doit être libéré et de nouveau, on doit mettre une table de négociation en place pour que cette solution kurde venant des Kurdes puisse vraiment être appliquée. C'est dans ce cadre-là qu'en prenant l'exemple de Nelson Mandela, qu'une campagne internationale a commencé le 7 octobre ici en France, je l'ai dit, en Europe, en débutant sur 74 points. Mm-hmm. On dit il est temps que Abdullah Öcalan soit libéré et il est temps, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Il faut une solution à la question kurde. C'est pour ça que cette marche est primordiale. C'est pour ça que cette marche qui traverse toute l'Europe est une vision, une image de la demande des Kurdes, de la requête des Kurdes, et qui est aussi qui va aboutir au 15 à Strasbourg. Parce qu'il y a toutes les instances, la Cour européenne des droits de l'homme.
Est-ce que j'ai été demandé avec l'ambition d'être reçu par, par des députés, c'est des députés européens, des institutions européennes, peut-être ?
Les députés européens d'opposition ont tendance à venir nous rendre visite parce qu'il y a un veillé permanent mm-hmm. pour Öcalan.
Ouais, devant le Parlement.
Devant ouais. le Parlement depuis des années. Mais c'est surtout, nous demandons à la Cour européenne, nous demandons au CPT qui est le Conseil de lutte contre la torture, de mettre en application leur texte et de faire pression sur la Turquie, de prendre des sanctions pour que la Turquie lève l'isolement carcéral sur Öcalan et pour qu'enfin ce prisonnier politique soit libéré, car il est la clé de la solution kurde.
Pourquoi ? Parce qu'il a la légitimité politique, historique, il a la légitimité de son peuple également, et il aura l'autorité nécessaire, justement, et il a eu tout le temps, pour le coup, de réfléchir à de multiples solutions pour pouvoir proposer quelque chose qui permette, si possible, une sortie pacifiste et politique de cette situation.
De toute manière, il n'y a pas de si possible. Aucun conflit n'a été résolu par les armes. Il a fallu à un moment donné déposer les armes et se mettre à table et discuter et signer des engagements pour poursuivre la paix. C'est comme ça que doit être aussi résolue la question kurde. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est pour ça que cette campagne est extrêmement importante. Et le fait que ce soit nos amis, l'ami du peuple kurde, l'ami des peuples du Moyen-Orient, qui prennent cette initiative de commencer cette campagne en disant, comme nous l'avons fait à l'époque pour Nelson Mandela, eh bien nous disons stop. Maintenant, oui. Il est temps que le peuple kurde puisse obtenir un statut digne. Donc nous commençons cette campagne, et pour que cette campagne puisse aboutir à des pourparlers de paix, eh bien il faut que l'interlocuteur au nom du peuple kurde, celui qui a les capacités idéologiques, politiques et la légitimité au nom du peuple kurde, Abdullah Öcalan, soit libéré pour qu'on puisse enfin parler de paix et de signer la paix. D'acter la paix.
La forme marche, en plus, elle rappelle des très grandes formes historiques de protestation des peuples ou des minorités qui ont pu être opprimées, hein, que ce soit la marche des droits civiques aux États-Unis, ou si on pense à la question de la lutte du peuple irlandais, etc., etc. C'est vraiment des formes qui sont peut-être pas traditionnelles, mais qui sont identifiées politiquement pour la revendication de droits des peuples. Et tu l'as dit, c'est toujours hyper important de le souligner, que le droit à l'autodétermination des peuples est reconnue internationalement, et à l'intérieur de ce droit à l'autodétermination, la lutte armée est reconnue comme légitime.
Tout à fait.
Sauf que un des outils justement des États oppresseurs, c'est de délégitimer son adversaire en lui disant nous ne sommes pas en conflit, mais vous êtes en l'occurrence soit des terroristes, soit des choses comme ça, etc., etc. Mais là, il y a un point qui est important, c'est que justement cette expression politique du peuple kurde, qui passe par différents biais, mais principalement le PKK, elle est empêchée. C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité pour les Kurdes de porter une parole politique ou une parole de leur propre peuple. Est-ce que tu peux nous en parler, ça ?
On brigue tous les interdits. Il n'y a pas d'impossibilité. À ceux qui nous disent que nous sommes une entité terroriste, que Öcalan est un leader terroriste, eh bien, je leur réponds que vous étiez à côté de soi-disant de ces terroristes quand il a fallu combattre contre Daesh et les autres vermines. L'armée française et d'autres était aux côtés des Kurdes. C'est les Kurdes qui combattaient, mais vous, vous étiez là aussi. Donc, qu'est-ce que vous faisiez à l'époque ? Vous étiez en, comment je veux dire, en collaboration avec, soi-disant, une organisation terroriste. Quand c'est vos intérêts, ce sont des combattants de la liberté, les lionnes, les amazones des temps modernes, c'est ce qu'on appelait les femmes combattantes kurdes. Et une fois qu'on traverse le Moyen-Orient et qu'on arrive en Occident, on redevient des terroristes. Cette duplicité, ça commence à vraiment suffire. Donc, il faut qu'on arrête de se trépigner sur le corps, sur le sang du peuple kurde. Qu'on arrête de danser sur le sang, sur le corps des peuples du Moyen-Orient. Il est temps que la paix puisse être mise en place. Et ça, ça passe par la reconnaissance du territoire du peuple kurde. Ce territoire qui n'a pas bougé, ces frontières qui ont été installées dessus, ces frontières qui sont pour nous hermétiques, qui n'ont aucune, qui n'ont aucune valeur, hein, puisque les Kurdes ont continué à vivre sur leur terre, nous disons, eh bien, nous n'allons pas retracer des nouvelles frontières, nous n'allons pas rediviser les peuples, nous allons unir les peuples. Et nous allons faire ça avec Öcalan, qui est le représentant du peuple kurde. On essaye, l'État turc essaye, l'Europe essaye de créer son propre Kurde. Celui auquel on donne des directives et qui écoute, celui qui est, qui boutonne sa chemise quand... non, ce sont les Kurdes qui vont décider pour eux et vont décider avec les autres peuples qui sont à leur côté, vont décider ensemble de leur devenir. Ce n'est pas vous qui allez nous imposer. Et ça, eh bien, c'est un système politique qui dérange, qui fait peur, alors que c'est, la stabilité au Moyen-Orient, je le dis, c'est la stabilité, le confort en Occident. Ne l'oubliez pas. Les bombes explosées ici en Europe, les kamikazes se tuaient ici en commettant des massacres. Il a fallu que les Kurdes combattent là-bas. Il a fallu que les Kurdes et par la suite l'armée démocratique syrienne qui était composée d'Arabes, de Turkmènes et de toutes les autres entités qui vivent là-bas. Il a fallu qu'ils aillent défaire Daesh pour que les bombes, les attentats cessent ici. Donc, il est temps maintenant de laisser le peuple kurde exprimer sa volonté. Et pour que la volonté de liberté, la volonté de projet politique, du confédéralisme démocratique, de vivre ensemble, puisse être mise en place, eh bien, le point le plus important, c'est le lever de l'isolement carcéral, la libération de Öcalan. Et c'est pour ça qu'il y a cette marche qui va continuer. Et je donne rendez-vous à tous ceux et celles qui veulent venir rejoindre le peuple kurde, parce que la solidarité, c'est maintenant. Eh bien, le 17, nous allons à Cologne, en Allemagne, pour justement cette année marcher pour demander la liberté de Öcalan et un statut pour le peuple kurde. Le 17, dans toutes les instances, les associations kurdes, il y a des bus qui partent. Je demande à tous ceux qui nous écoutent de rentrer en contact avec les associations kurdes pour aller à Cologne et pour dire la paix au Moyen-Orient, la stabilité en Occident. Donc liberté pour Öcalan, statut pour le Kurdistan, liberté pour Öcalan, statut pour le Moyen-Orient, pour les peuples du Moyen-Orient, pour que cesse le feu et le sang.
Eh ben, tu me donnes une très bonne transition pour donner la parole à nos camarades qui ont été très sages jusqu'à présent. Je donne un autre exemple pour souligner l'hypocrisie que tu donnais sur la mairie d'Épernay, qui est une ville un petit peu plus bas. Il y a un panneau affiché sur les grilles qui proclame le slogan du PKK qui s'appelle « Femme, vie, liberté ». Hein, en soutien aux femmes iraniennes qui se battent. Alors c'est très bien, mais vous voyez cette hypocrisie, d'un côté on prend, de l'autre on rejette. Mais bon, je me tais, je laisse la parole à nos camarades du collectif par ici. On avait la chance d'avoir la présidente, excuse-moi.
Non, je ne suis pas présidente.
La porte-parole.
La porte-parole. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce collectif et ses ambitions, et comment on fait justement si on veut vous rejoindre, si on s'intéresse à la question kurde, et pourquoi pas aller jusqu'à Cologne le 17?
Oui, Alors, on s'intitule le collectif Solidarité Kurdistan Champagne-Ardenne. Pour ceux qui nous cherchent, on a une page Instagram. Pour être efficace, nous avons deux objectifs. Tout d'abord, pallier la méconnaissance des Européens pour tirer des gros traits sur la question kurde. Je suis sûre que si on faisait un sondage aujourd'hui dans Reims, est-ce que vous savez où est le Kurdistan, qui sont les Kurdes, peu de personnes seraient à même de répondre. On voudrait aussi mettre en lumière les combats qui se passe au Kurdistan, parce que souvent, un des premiers reproches, entre guillemets, que font les gens anti-réfugiés, c'est « Ah oui, mais en 40, les Français, ils ont résisté, etc. etc. » Mais les Kurdes résistent incessamment. Coup, là, Et même quand ils viennent en France, ils résistent encore à distance. Donc ça, c'est très, très important de le mettre en valeur. Et petit conseil lecture, André Hébert jusqu'à Raqqa, qui est le pseudonyme d'un Français qui a été combattre avec les Kurdes jusqu'à Raqqa. Et
c'est même en BD, si ça veut...
Ah, c'est même en BD. Ah bah ça y est, bah, super, bah, j'irai le lire aussi. Et c'est très éclairant sur la situation au Kurdistan. Voilà, et insister aussi, hein, comme le disait Berivan, sur le fait que les Kurdes ne sont pas terroristes. Encore tout à l'heure, j'ai voulu publier... un portrait d'Öcalan et Instagram a supprimé le contenu. Donc ça, c'est très embêtant. Voilà. Et réaliser vraiment la violence du gouvernement en Turquie, puisque leur simulacre d'élection démocratique qu'on a eue avec la réélection d'Erdogan a quand même bien eu les Européens, entre guillemets, qui n'y connaissent rien, en pensant que c'est une démocratie, mais pas du tout, hein, puisqu'on a parlé des prisons à l'instant. Et des droits de l'homme qui sont bafoués. Et notre deuxième objectif, et qui est très très actuel, hein, qui est brûlant en ce moment, c'est de soutenir les Kurdes et tous leurs combats, et notamment hein, en allant à Cologne le 17 février. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram si vous voulez participer, si vous voulez qu'on vous emmène. Voilà, on veut donc soutenir les valeurs qui sont en accord avec les droits de l'homme, hein, puisque, paraît-il, la France est le pays des droits de l'homme, donc allons-y, ah bon, soutenons-le. c'est pour ça, le paraît-il.
La formation n'est pas parvenue jusque-moi, excuse-moi.
Oui, c'est pour ça que j'ai pris des précautions rhétoriques. Et voilà, Abdullah Öcalan, donc ce sera mon dernier mot, hein, pour dire que c'est vraiment un homme politique hors du commun. Et pourquoi ? Parce que c'est un homme qui, à la fois, agit, mais aussi qui est cultivé à la façon encyclopédique des philosophes antiques. Et ça, c'est de plus en plus rare, des gens qui ont à la fois l'intellect et qui ont l'action. Et surtout, il nous propose une excellente alternative au capitalisme qui déshumanise le monde moderne et notre société qui, aujourd'hui, s'étiole. Philippe, tu me complètes ?
Non, je pense que tu as vraiment tout dit. Hein. Tu as été brillante et synthétique. On est heureux d'avoir une porte-parole de ta qualité. voilà. Non, ce que je voudrais dire, c'est que ouais, la première chose peut-être qu'on ambitionne, c'est comme l'a dit Léa, c'est de faire connaître la cause kurde qui est méconnue. Voilà. Et peut-être un jour, on aura un président qui va peut-être prendre la parole au lieu de s'émouvoir sur les victimes, qu'elles soient juives, qu'elles soient palestiniennes. C'est très bien de le faire, bien sûr. Je critique pas. Au lieu d'avoir une opinion publique qui va se pleurer devant le sort des baleines, des requins ou des derniers. Je sais pas, des dernières espèces animales qu'il faut aussi préserver, vont pouvoir prendre position sur ces crimes contre l'humanité qui ont eu lieu et qui ont lieu, et ces atteintes aux droits de l'homme qui ont eu lieu depuis longtemps et qui continuent d'avoir lieu sous nos yeux. Alors qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le courage politique de s'en prendre à quelqu'un comme Erdogan, par exemple? On sait qu'il fait du chantage à l'Europe, on sait qu'il y a aussi un manque de courage, et on a des politiciens qui manquent vraiment de courage. Voilà. Donc, on voudrait en changer, mais on n'a pas les moyens de le faire. Mais on va dire quand même qu'on en voudrait d'autres. Voilà. C'est notre ambition.
Oui, bon, de toute façon, le peuple kurde est un peuple qui s'est toujours battu au cours de son histoire, qui se battra encore, quelles que soient les formes que prennent cette lutte et ce combat. Donc là-dessus, je pense qu'on peut leur faire confiance. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que pour ceux qui sont comme nous, qui estiment et qui trouvent ce monde insupportable, c'est pas mal parfois de décentrer ce regard et de pas regarder et de pas faire de complexe de supériorité, justement, et d'aller voir que dans d'autres endroits du monde, dans d'autres espaces culturels et philosophiques et politiques, il y a des gens aussi qui produisent de la réflexion et qui produisent aussi de la politique. C'est pas parce que on est ici au cœur de l'Europe qu'on a forcément tout inventé et tout compris, encore plus quand il s'agit d'autres d'autres peuples. Donc c'est pas mal aussi d'aller s'enrichir vers d'autres penseurs et vers d'autres qui ont en plus, comme tu l'as dit Léa, un lien très profond avec une pratique réelle et concrète sur une longue durée. Et ça, c'est vraiment primordial.
Oui,
donc rendez-vous à tous sur Instagram et en espérant qu'il y ait le plus de monde possible le 17 à Cologne.
Oui, et je rajouterai peut-être quelque chose. Abdullah Öcalan a écrit des livres, très peu de gens le savent, notamment un manifeste de la civilisation démocratique.
Pour une civilisation
voilà.
démocratique.
Merci.
Les trois tomes ont été traduits en français.
Oui, c'est ça.
Et,
qui est trouvable
conseille.
Sur le net en
oui,
PDF.
Oui, tout à fait, même sur Amazon, hein, même si on n'est pas très... on peut se les procurer et vraiment lire les idées. Le projet politique de Öcalan et de ce qu'on peut faire ensemble, de ce que les peuples peuvent faire ensemble. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant.
C'est ça, ça fait 50 pages, ça s'appelle « Guerre et paix au Kurdistan pour une solution politique ». La question
toujours. Non,
il y en a plein, il y en a énormément.
Non, c'est les livres de Öcalan qui sont traduits,
ouais.
qui ont été traduits en français. Il y a trois tomes. Donc, qui sont à la disposition de ceux qui veulent vraiment découvrir qu'est-ce que le confédéralisme démocratique, c'est quoi le Moyen-Orient, pourquoi cette lutte, pourquoi ce nouveau projet de vivre ensemble, qu'est-ce que vraiment la démocratie directe. Et donc, si vous voulez découvrir, eh bien, ça va aussi vous changer votre vision de la vie. Votre vision envers l'autre, envers ceux qu'on considère l'étranger, envers ceux qu'on considère le réfugié. Ça va vous donner une nouvelle vision de la vie. Et franchement, je pense que je n'exagère pas en disant cela. En lisant ces livres, vous verrez que ceux qui viennent de Mésopotamie nous ont apporté et continuent à nous apporter beaucoup de choses. La lumière ne part pas de l'Occident. Elle vient de l'autre côté et ça, on devrait se le rappeler, je pense.
Oui, puis tu l'as dit, quand c'est toujours présenté comme étant sous son aspect négatif, que ce soit le terrorisme ou les barbares de Daesh ou des forces qui sont négatives et pessimistes, mais il y a aussi effectivement beaucoup de positifs, beaucoup de gens qui pensent à comment faire pour vivre ensemble. Entre eux et en plus avec la nature, donc ce ne peut qu'être un gain.
Si je peux dire une dernière chose, si vous voulez aussi découvrir les informations quotidiennes par rapport au Kurdistan, vous pouvez aller sur, que ce soit Facebook ou X, ancien Twitter, sur Roj Info, R-O-J Info. Vous pouvez aller aussi sur le site du CDKF, du Conseil démocratique kurde en France, que ce soit sur X, sur Facebook, Instagram, et de cette façon suivre régulièrement les informations relatives au peuple kurde au Moyen-Orient, mais aussi ce que les actions que nous faisons ici pour décriminaliser le peuple kurde. Parce que je répète, en criminalisant le PKK et Öcalan, on criminalise la lutte légitime de tout un peuple de plus de 50 millions de personnes.
Eh ben, très bien, merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Merci à vous pour votre invitation.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canastu, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.